Vous êtes sur RTL.
7h, 9h,
RTL Matin.
RTL 8h25, bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po, et je rappelle votre livre « Les 100 mots de la guerre » paru aux presses universitaires de France. Le Premier ministre israélien annonce donc une réponse, je cite, « mesurée ». Qu'est-ce que ça veut dire, Frédéric Ancel ?
Alors, mesurée, déjà, on sait ce que ça ne veut pas dire, c'est-à-dire une offensive aérienne massive au sol iranien à partir du sol israélien. Voilà. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est dans toute la palette de la réplique possible, dans toute la palette des possibilités, oui. C'eût été la plus dure. Hein. Et donc, aux yeux d'un Netanyahou qui lui-même a des positions extrêmement fermes ou intransigeantes, c'est le moins qu'on puisse dire, éviter cette alternative-là, ça s'appelle quelque chose de mesuré. Ça ne veut pas dire que ce sera extraordinairement pacifique, oui. mais mesuré au regard donc de cette capacité.
Est-ce qu'il y a quelques scénarios possibles qu'on peut évoquer ?
Oui, notamment le scénario périphérique classique qui est celui du Hezbollah. Parce que, si vous voulez, ça permettrait à Israël, d'une part, d'éviter de frapper le sol iranien, ce que ne veulent pas les Américains et les alliés d'Israël, d'une part, et d'autre part, malgré tout, d'assumer notamment auprès de la population israélienne, là, cette volonté, cette capacité de riposter très fortement. D'ailleurs, le Hezbollah, c'est l'instrument fondamental de l'Iran dans la région.
Alors, dans la région, mais est-ce qu'ils ont joué un quelconque rôle dans ce qui s'est passé récemment ?
Oui, alors tout dépend de ce qu'on appelle récemment. En réalité, depuis leur création par Téhéran en 82, voilà, le Hezbollah a toujours perçu Israël comme ennemi. Alors ça ne veut pas dire qu'il fait souvent la guerre à Israël. En revanche, depuis le pogrom du Hamas du 7 octobre, voilà. À partir du lendemain, en réalité, le Hamas n'a jamais cessé de maintenir alors, ce que j'appellerais une guerre de basse intensité avec Israël. Mais la basse intensité pour les habitants du nord de la Galilée, si vous voulez, ce n'est pas acceptable. Et donc de ce point de vue-là, Netanyahou serait, et son gouvernement, serait davantage fondé à frapper plus durement le Hezbollah en guise de riposte iranienne, mais sans obliger un gouvernement iranien à sur-riposter.
Le message étant très clair quand même pour les Iraniens.
Ah ben complètement, parce que le Hezbollah est assumé comme étant l'instrument de l'Iran, d'ailleurs il lui obéit au doigt et à l'œil.
Est-ce qu'on joue en ce moment à se faire peur, ou est-ce qu'il y a une réelle possibilité d'embrasement régional ?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre. On ne joue plus seulement à se faire peur, mais moi je ne crois pas à l'embrasement régional pour deux raisons simples. D'abord, chaque pays, chacun a son agenda. Et l'agenda de l'Iran, ce n'est pas la cause palestinienne, contrairement à ce qu'il prétend depuis la nuit des temps. Ça, c'est une cause instrumentale. Et l'Iran et le Hezbollah, d'ailleurs, ne se sont jamais sacrifiés pour les Palestiniens, c'est même le moins qu'on puisse dire.
Oui.
Le deuxième élément très, très convaincant, me semble-t-il, c'est celui des rapports de force. Les Iraniens, enfin la République islamique d'Iran, est dirigée par des fanatiques au dernier degré, mais pas par des imbéciles. Ce sont des gens qui connaissent bien les rapports de force. Et s'il devait y avoir escalade maximale, la dernière marche serait de toute façon perdue par l'Iran. Ça, c'est une certitude, et les Iraniens le savent très bien. Enfin, dernier point, le pétrole. Il faut quand même qu'on y revienne, parce qu'on me dit ces dernières années, c'est vrai, qu'on en trouve un petit peu partout, qui n'est plus tellement cher et qu'on utilise maintenant des énergies alternatives. Sauf que, à partir du détroit d'Ormuz, qui débouche évidemment donc sur le golfe arabo-persique, vous avez encore entre un quart et un tiers du brut mondial qui s'écoule, et notamment vers l'Europe et la Chine. Tiens donc. Et pourquoi la Chine tente systématiquement au Moyen-Orient l'apaisement ? Parce que la Chine ne supporterait pas l'économie chinoise, ne supporterait pas un baril à 200 dollars.
Vous avez été surpris par la capacité israélienne à se protéger lors de l'attaque ?
Alors, non, pas vraiment, parce que que ce soit Hetz, Dôme de Fer, Patriot, les missiles antimissiles israéliens, depuis au moins la guerre propagée par Saddam Hussein en janvier 91, donc c'était la première guerre du Golfe autour du Koweït, avaient poussé les Israéliens à développer ce système antimissile. Ça ne veut pas dire que l'aviation n'y a été pour rien, puisque même l'aviation traditionnelle israélienne est allée en avant, donc dans les espaces aériens syriens et jordaniens, intercepter déjà un certain nombre d'engins.
Benjamin Netanyahou, peut-il se passer des Américains qui, eux, ont expliqué ne vouloir ni riposte ni d'une guerre ?
Alors, Israël peut se passer des Américains dans les opérations tactiques, pas dans les opérations stratégique. La différence entre les deux, c'est une différence de moyens, d'une part, c'est une différence spatiale, d'autre part. Plus on va loin, plus on touche des pays lointains, plus vous avez de chance de tomber sur des États qui eux-mêmes sont liés à d'autres pays, donc c'est dangereux, si vous voulez. Et enfin, le stratégique, ça peut mener à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à un embrasement dans le Golfe, et mener à une riposte iranienne sur des pays alliés oui. Les États-Unis. Je pense évidemment à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats. Pour ce faire, les Israéliens auraient absolument besoin du feu vert américain.
On fait souvent en ce moment du Premier ministre israélien un portrait, on va dire, opportuniste et dangereux sur le registre. Il a besoin de la guerre pour se maintenir au pouvoir. C'est vrai ou c'est un faux procès ?
Il a besoin de se maintenir au pouvoir pour éviter la prison. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il joue sur la guerre pour se maintenir au pouvoir ? Là, on est, me semble-t-il, dans du très subjectif. Je ne sais pas, je ne suis pas dans son cœur, ses reins ni son cerveau. Ce qui est sûr, c'est qu'il maintient, et cela depuis 2 ans, au sein de sa coalition, oui. des gens qui sont non seulement incompétents, mais parfaitement extrémistes. Et entre 70 et 80% d'Israéliens, selon toutes les enquêtes d'opinion, oui. ne nous ont pas attendus, ici en France, nous autres pour détester la partie extrémiste de cette coalition.
L'Iran, et ce sera ma dernière question, est-il soutenu aujourd'hui par le monde arabe ? Je rappelle que ce n'est justement pas un pays arabe, même s'il est musulman.
Non seulement il n'est pas soutenu par le monde arabe, mais depuis son offensive d'avant-hier, le roi est nu. C'est-à-dire qu'au fond, et je le dis d'un mot, c'est pas tellement sur le plan militaire que l'Iran a échoué. Certes, il a échoué parce que les Israéliens, les Américains ont été bons, oui. mais il a échoué politiquement. Pourquoi ? Parce que a éclaté au grand jour, en quelque sorte, le fameux clivage entre chiites d'une part, sunnites d'autre part. Or, la grande majorité des États arabes sont sunnites et craignent beaucoup plus l'Iran qu'Israël.
Merci beaucoup Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po.